I'm turning today to the Gospel of John, chapter 5 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 1. L'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 1. Et ces paroles, après cela, venait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et notre sujet, c'est la maison de miséricorde. Ceci s'est passé au début du ministère du Seigneur en Galilée. C'est au début de l'année 28 après Jésus-Christ. C'est le deuxième récit qui nous est rapporté de la visite du Seigneur à Jérusalem. C'est probablement l'une des grandes fêtes de pèlerinage, mais nous ne savons pas laquelle. Nous pouvons donner des hypothèses. On ne nous dit pas dans ce récit si les disciples étaient avec lui, mais nous pensons que c'était le cas. Ils étaient avec lui probablement tout le temps, mais ils ne sont pas mentionnés ici parce que tout est concentré sur le Seigneur. Il n'y a pas de distraction dans ce récit. Nous voyons uniquement Christ et ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Après cela, venait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. J'aimerais revenir rapidement au chapitre 2 et au verset 14 et 15. Où Christ est allé au temple pour la première fois, il y a eu deux purifications du temple, l'une au début de son ministère et l'autre à la fin de son ministère. Et Christ a trouvé dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis, des pigeons avec les changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple. C'était là un symbole, ce fouet. Ce n'était pas un fouet qu'il pouvait utiliser parce qu'il était très petit, mais c'était un symbole de justice. Il les a chassés tous du temple, et les brebis, et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. C'était un miracle extraordinaire qu'il pouvait faire une telle chose, d'une telle manière. Et il était là, à Jérusalem. Et au verset 23 du chapitre 2, nous lisons « Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » C'est mentionné ici en passant. Et il y en avait beaucoup. Et au chapitre 3, au verset 2, la visite de Nicodème. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il y avait beaucoup de gens qui croyaient en lui de manière évidente. Il y avait beaucoup de miracles et ceci était extraordinaire aux yeux de ces pharisiens. Au chapitre 4, verset 45, ceci nous prépare pour cette étude. Lors donc qu'il fut arrivé en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem à la fête, car ils étaient aussi allés à la fête. Ainsi, ils ont rapporté tout ce que le Seigneur avait fait. Au chapitre 5, ils retournent à Jérusalem. Et il y aura là un miracle vraiment important. Chapitre 5, verset 2. « Or il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir, appelé en hébreu Bethesda, qui signifie une maison de miséricorde, qui a cinq portiques. » En 1888, les archéologues ont identifié et trouvé cette piscine de Bethesda. Les portiques avaient disparu, mais on voit les fondements de ces portiques qui sont encore là. Et au verset 3, « Là était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. » Certaines de ces maladies sont mentionnées. Aveugles, boiteux, paralytiques, des gens boiteux, des gens paralysés, avec des membres atteints. Et ils attendaient tous le mouvement de l'eau. Oh, je vais mentionner cela au verset 4. Il nous est dit « Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et troublait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été troublée était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. » Ce passage au verset 4 ne dit pas qu'on pensait qu'un ange descendait à un certain moment. Donc on peut penser que le récit qu'on a nous indique que ceci se passait littéralement. Peut-être que c'était un acte de miséricorde envoyé par Dieu pour attiser cette espérance dans le cœur des gens de l'époque. L'état de cette nation était désespéré. Il y avait encore cette miséricorde de la part de Dieu, mais peu importe l'explication, il y avait ces miracles remarquables, pas souvent, mais simplement de temps en temps. Nous ne savons pas si c'était une fois par an ou au temps de cette grande fête de pèlerinage, mais pas très souvent. Et il y avait une grande foule de personnes qui attendaient d'être guéries. Peut-être que ceci se passait en un certain temps. Cette personne qui rentrait dans l'eau peut-être commençait à aller mieux. Et je dis ceci parce que l'apôtre Jean, dans le récit, quand nous y arriverons, va souligner que le miracle de Christ est instantané. Peut-être que ceci est opposé à ce qui se passe dans cette piscine de Bethesda, où ceci prenait du temps pour être guéri. Mais c'était si rare que ceci montrait presque la situation désespérée de cette nation. Contrairement à il y a quelques siècles où le Seigneur a guéri toutes leurs maladies, ils n'avaient pas de maladie. Maintenant, ils sont dans une certaine mesure sous le jugement de Dieu. Et nous en arrivons à cette personne qui sera guérie au verset 5. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Il était un cas difficile. Parmi tous ces gens qui attendaient là, devant ces portiques, qui attendaient cet événement rare de ce miracle, de cette guérison, il était probablement bien connu, je pense, parce que c'était son cercle d'amis, c'était son endroit. Ils se parlaient l'un à l'autre, ils partageaient leurs problèmes, leurs difficultés. Peut-être qu'il était un homme amer. Le Seigneur le décrit plus tard comme étant un homme dans le péché, nous verrons cela. Peut-être qu'il est dans la critique dans son cœur et dans l'amertume. Qui sait, nous ne savons pas. C'était là son cercle d'amis. Ces gens peut-être qui murmuraient, qui étaient tristes, qui étaient infirmes, qui se rassemblaient, qui étaient là ensemble. Au verset 6, Jésus le voyant couché. Qu'est-ce que le Seigneur fait là? Les pharisiens ne se trouvaient pas dans cet endroit parce qu'ils auraient pu être souillés et impurs de manière cérémonielle. Les prêtres ne se trouvaient pas là, mais le Seigneur va dans ce réservoir de Bethesda. Jésus le voyant couché et sachant, il connaissait son cas, il savait tout par rapport à lui, il était Dieu tout autant qu'homme, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, et c'est là mon premier point ce matin, cette question extraordinaire, c'est une question extraordinaire que le Seigneur pose. Veux-tu être guéri? Imaginez cela, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, peut-être vous êtes dans la souffrance, dans la douleur, vous avez peut-être une migraine terrible ou quelque chose de plus grave, et vous souffrez. Quelqu'un vous dit, veux-tu être guéri? Oh, personne ne va vous poser une telle question. Est-ce que vous voulez aller mieux? Est-ce que vous voulez être guéri rapidement et être bien à nouveau? Ce ne sont pas des questions que vous posez parce que la réponse est si évidente, mais c'est très important que le Seigneur pose cette question à cet homme. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être bien à nouveau? Est-ce que tu veux être guéri? Non pas une question que les docteurs posent en général. Très probablement, il ne voulait pas être guéri. Il était malade pendant 38 ans. Il avait l'habitude de sa maladie. Tous ces gens autour étaient son cercle d'amis. Il avait un certain avantage dans sa maladie, d'une certaine manière, si je peux dire. Il n'avait pas besoin de travailler, de prendre de responsabilités. Il avait son cercle d'amis là, c'était là. Ce pourquoi il avait l'habitude, il pouvait exprimer son amertume ou son mécontentement, peu importe ce que c'était. Ils étaient tous dans la même condition là. Et peut-être qu'il a oublié ce que c'était que d'être bien. C'est une question qui est importante. Et tout ce que le Seigneur a fait En plus de cela, et tous ces miracles physiques, non seulement l'authentifier en tant que Dieu, mais également ces miracles illustraient une guérison spirituelle. Et en ce qui concerne la guérison spirituelle, la question est importante. Est-ce que vous voulez être sauvé? Est-ce que vous voulez être réconcilié avec Dieu? Ainsi, cette question est importante dans ce contexte-là. Est-ce que vous voulez être transformé en tant que personne, recevoir cette nouvelle nature, cet accès à Dieu et cette communion avec lui? Et de nouveaux goûts, une vie nouvelle, un avenir nouveau? Et la réponse de presque chacun d'entre nous à cette question, c'est non, nous ne voulons pas, laissez-nous, nous sommes heureux dans ce monde tel que nous sommes. Nous ne voulons pas abandonner notre péché, nous ne voulons pas abandonner ces choses que nous connaissons, nous voulons notre propre réussite, nous voulons ce que nous voulons. Les gens avec qui nous voulons passer notre temps, notre cercle d'amis, nous voulons notre indépendance, nous voulons notre détermination propre, nous ne voulons pas que le Seigneur domine dans nos vies. Nous ne voulons pas être en souci par rapport à notre qualité de vie. S'il nous sauve, s'il nous transforme, qu'il nous met sur le chemin vers le ciel, nous devons alors combattre contre le péché et nous tourner vers lui pour sa bénédiction. Nous devons l'étudier, nous devons l'aimer, marcher dans ses chemins, le représenter. Et c'est la dernière chose que nous voulons. Nous voyons que cette question est très importante et a une grande signification. Quand nous voyons ce miracle en tant qu'image d'une guérison spirituelle, veux-tu être guéri? Et tout être humain résiste à Dieu, nous le savons, parce que si nous essayons de parler à quelqu'un de Christ, et cette personne trouve toutes sortes de choses pour changer de sujet, ou pour résister, ou pour mettre des barrières, pour ériger des barrières, et chacun d'entre nous, nous résistons. C'est la dernière chose que les gens veulent, que quelqu'un qui leur parle de la foi, uniquement par la grâce de Dieu, les gens nous écoutent et les cœurs sont ouverts à la vérité. Mais il y a cette résistance terrible à Dieu. Et dans le cas de cet homme, probablement, il n'était pas sûr s'il voulait être guéri, même physiquement. Veux-tu être guéri? Et cet homme malade, au verset 7, ce paralytique, ne répond pas réellement à la question. Il ne dit pas « Oh, il n'y a rien d'autre que j'aimerais que de pouvoir me tenir debout, marcher et de pouvoir marcher seul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de pouvoir travailler pour ma famille, de pouvoir pourvoir pour les besoins de ma famille. » Non, il y a cette réponse si triste. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Pourquoi est-ce que personne n'était là pour l'aider? Nous nous posons cette question. Probablement parce qu'il ne voulait personne. Mais qui l'a amené dans cet endroit? Chaque jour, il y venait de sa maison ou là où il habitait. Il ne pouvait pas y rester la nuit. Mais quelqu'un l'amenait là. Quelqu'un l'aidait à y venir. Quelqu'un l'aidait, mais ensuite le laissait seul. Il n'avait pas d'aide. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné probablement il y a bien des années. Parce qu'il était amer dans son cœur, et il était critique dans son cœur, et il ne voulait pas être guéri. « J'ai personne pour m'aider, » dit-il. Oh, je ne pense pas que c'est une réponse qui montre qu'il aspire à être guéri, mais il ne répond pas à la question, il n'a pas réfléchi à cette question. Il a arrêté de penser à cela depuis des années, des décennies peut-être. Et de même pour nous, spirituellement, nous ne sommes pas en souci par rapport aux choses spirituelles, si nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas en souci par rapport à notre état devant Dieu, par rapport à l'éternité, pas de souci par rapport à notre rencontre avec notre Créateur. Mais voici l'initiative du Seigneur extraordinaire. Et j'en arrive pour mon deuxième point, l'initiative divine au verset 8. Jésus lui dit « Lève-toi ». « Emporte ton lit et marche. » Quelle déclaration extraordinaire! Il est clair que cet homme était dans cette situation terrible pendant 38 ans. Il est clair qu'il n'a aucun espoir d'être guéri. Il est clair ici que personne ne l'aide pour aller dans le réservoir, dans la piscine, pour être le premier. Il n'y a aucun espoir pour cet homme, même si de temps en temps, peut-être une fois, deux fois, trois fois par an, il y avait un miracle dans cet endroit de Bethesda. Dans ces circonstances, le Seigneur intervient et fait de cette maison une maison de miséricorde réellement. C'est là ce commandement, lève-toi, emporte ton lit et marche. Avec cette autorité dans ce commandement, cette autorité divine, c'est le Seigneur. Pour nous, en parlant de choses spirituelles, le commandement est différent. C'est repentez-vous et croyez en Christ et donnez-lui votre vie. Repentez-vous de votre péché, croyez en lui et donnez-lui votre vie. Mais à moins que ce commandement ne nous arrive avec la puissance du Saint-Esprit, jamais nous n'obéirons. C'est le Saint-Esprit qui touche nos cœurs, qui ouvre nos cœurs et notre compréhension, qui amène en nous ce grand sens de notre besoin de Dieu. Ainsi nous réalisons notre condition devant Dieu, que nous sommes perdus devant lui, et nous aspirons à son pardon et au salut. Et nous commençons à chercher le Seigneur et à lui obéir. Lève-toi, emporte ton lit et marche. Ce commandement du Seigneur est plein d'amour et de puissance qui sont là, unis dans ce commandement. La vie revient dans ses membres paralysés de cet homme. La piscine n'est pas requise. L'ange qui descend pour troubler l'eau n'est pas requis. Mais le Fils de Dieu vient et donne la vie immédiatement. Et avec cela, il donne également la force d'obéir. Imaginez que j'étais cet homme paralytique, là. Comment est-ce que les choses se sont passées? Lève-toi. Mais, oh, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas me lever. Je ne me suis pas levé par moi-même, par ma propre force. Depuis des années et des années, je ne peux pas faire cela. Mais avec ce commandement vient également la force d'y obéir. Et il savait qu'il pouvait obéir, qu'il pouvait se lever quand le Saint-Esprit œuvre. Et que la parole de Dieu dit « Repentez-vous et croyez en Dieu et donnez-lui votre vie. » Quand l'Esprit œuvre, il donne également la capacité d'obéir qui vient avec sa parole. Autrement, cette personne jamais ne se serait repentie de son péché, n'aurait donné son cœur à Christ. Cet homme, cette force lui a été donnée et il a obéi. Et c'était immédiat, nous lisons ceci au verset 9, « Et aussitôt, l'homme fut guéri. » Comme la personne qui vient à Christ est guérie spirituellement. Et son esprit est transformé, sa pensée est transformée, le cœur est transformé, la volonté est transformée, tous ces aspects de l'âme, ma pensée n'est jamais plus la même. Je comprends les choses spirituelles, la miséricorde de Dieu, le chemin du salut. Mes affections sont transformées. Auparavant, je résistais contre Dieu. Maintenant, j'aime Dieu et j'aspire à lui. Et je suis transformée. Je ne suis pas rendue parfaite du jour au lendemain, d'aucune manière. Mais ma volonté est transformée. Je veux le servir, l'honorer, lui plaire. Et à présent, quand je tombe dans le péché, je suis dans l'angoisse et ma conscience est touchée parce que tout en moi est transformé. Immédiatement, en parlant physiquement, l'homme fut guéri. C'est un miracle extraordinaire. Tous les gens autour étaient émerveillés. Cet homme était malade pendant tant d'années, infirme et paralysé, handicapé. Beaucoup le connaissaient et beaucoup l'observaient. Il a pris son lit et il marchait. Et ensuite, au verset 9, cette remarque, « Or, ce jour-là était un sabbat. » Et ceci nous amène à notre troisième point, l'hostilité commence. Dans cette visite en particulier, ce jour-là était un sabbat. Et au verset 10, les Juifs disaient donc, souvenez-vous dans l'évangile de Jean, quand vous lisez les Juifs, ce terme « les Juifs » signifie « les chefs des Juifs ». Non pas toute la foule, souvent la foule n'était pas opposée à Christ, mais ce terme « juif » dans l'évangile de Jean se réfère aux chefs des juifs, aux scribes, aux pharisiens. C'est là l'utilisation de Jean du terme « les juifs ». Presque dans chaque situation, dans chaque contexte, à l'exception de deux. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Oh, nous pourrions améliorer la traduction un peu. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, ceci suggère qu'ils lui ont dit une fois, mais dans l'original grec, il est écrit « Les Juifs lui disaient ou continuaient de lui dire constamment. » Ceci suggère quelque chose d'un peu différent. C'est que chaque fois que cet homme qui portait son lit, qui était roulé là, son matelas, chaque fois qu'il rencontrait un chef des Juifs, il lui disait « Oh, tu portes ton lit le jour du sabbat, toujours à nouveau, constamment. » Tous ceux qui le rencontraient lui parlaient. Partout où il allait, partout où il se tournait, un homme porte son lit. La loi cérémonielle devait être appliquée. La loi telle que les pharisiens l'avaient étendue, c'est que vous ne pouviez pas porter votre lit. Même les sadducéens, le plus grand parti des Juifs de l'époque dans le cercle du temple, même eux croyaient en cela. Tout le monde à Jérusalem gardait la loi comme il l'avait été enseigné. Bien sûr, ce n'était pas là la loi, le quatrième commandement et ce passage extraordinaire dans le prophète Jérémie qui parle de porter un fardeau et qui interdit de porter un fardeau le jour du Seigneur. Ceci ne parle pas de porter quoi que ce soit, mais de porter quelque chose pour travailler, pour votre marchandise, pour faire des affaires le jour du Seigneur. Ceci ne s'appliquait pas dans l'Ancien Testament au fait de porter quelque chose que vous devez porter pour être une aide pour d'autres ou pour vous-même, pour des raisons pratiques et simples. Mais les pharisiens, avec leur approche qui est trop zélée, pensaient qu'il fallait obéir à la loi d'une manière méticuleuse dans nos œuvres, et ainsi ils avaient la faveur de Dieu en faisant cela, en gardant ses commandements. En tant qu'Israélites, en tant que Juifs, nous avons la faveur particulière de Dieu, mais si nous voulons une place particulière dans le cœur de Dieu, nous devons garder méticuleusement toutes ces règles, des lois cérémonielles. Et ils ont étendu ces lois. Et ceci, ils pensaient leur donner le salut, que de ne pas porter quelque chose le jour du sabbat. Ainsi, au verset 10, ils l'ont repris. « Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Au verset 11, la réponse de cet homme était très simple. Il leur répondit « Celui qui m'a guéri, oh lui, doit être accepté de Dieu. Il doit avoir la puissance divine. Lui m'a dit « Emporte ton lit et marche. » Et il ne peut pas être dans l'erreur, c'est impossible. Un homme saint, un homme qui avait la puissance divine, qui a fait un miracle extraordinaire pour moi, il m'a dit « Emporte ton lit et marche. » Mais au verset 12, ceux qui l'ont repris, les scribes, les pharisiens, les chefs des Juifs, les prêtres, ne sont pas du tout touchés. Et ils lui demandèrent donc, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Qui est cet homme qui t'a dit « Emporte ton lit et marche » Et c'est important d'étudier ce verset, mais j'aimerais le résumer pour nous. Au début, ce qu'ils disent, c'est sous-estimant, humiliant. Quel homme, quelle personne t'a dit une telle chose? Ils ne sont pas impressionnés comme cet homme guéri, en pensant que c'est un homme saint qui l'a sauvé. Non, ils ne sont pas intéressés par sa guérison, mais ils sont intéressés par ses paroles. Cette personne a commis une offense, cette personne doit être condamnée. Ils ignorent ce miracle, ils veulent juste trouver des arguments pour condamner cet homme. Et ils écoutent ces paroles que Jésus semble avoir dit. Qui est cet homme qui t'a dit « Emporte ton lit et marche » C'est là ce qu'ils ont entendu. Ils écrivent déjà la sentence, mais ils ont complètement ignoré le miracle, la preuve de son autorité divine. N'est-ce pas exactement comme les êtres humains, quand vous lisez quelque chose de ce genre, ceci s'est passé littéralement? Ne pensez pas que ces chefs des Juifs qui ont dit ces choses ont fait des choses terribles, mais ceci nous reflète chacun d'entre nous, nous sommes pareils. Dieu a créé le monde. Il y a là toutes les preuves de la création de Dieu, de ce génie derrière la création. Oh, ne me parlez pas de cela, je crois dans l'évolution. Et nous disons non, je crois dans ces millions d'années, ce processus de hasard, je crois que tout peut être expliqué d'une manière matérielle, physique. Je ne crois pas dans un génie divin et j'ignore toutes ces choses spirituelles, ces choses divines. Et je dis, je ne crois pas en Dieu pour cette raison-là, pour une autre raison. Nous allons directement dans ces choses négatives. Qui est cet homme qui t'a dit « emporte ton lit et marche » C'est là les préjugés humains. Christ allait faire tant de miracles, beaucoup de miracles, et ces gens vont toujours encore rester complètement aveugles à tous ces miracles. Ils sont durs, endurcis contre l'Évangile. Mais le problème principal, c'est que Christ a fait quelque chose qui allait contre leur théologie. Leur théologie, c'était le salut par les œuvres. Vous pouvez mériter le salut, vous ne devez pas emporter un fardeau le jour du sabbat et ainsi vous serez sauvés, sauvés par les œuvres. Et un homme de Dieu vient, qui enseigne, qui fait des miracles. Et cet homme important, il fait ses miracles le jour du sabbat. Ceci remet en question toute leur position, leur théologie. Ils travaillent le jour du sabbat. Ils ne peuvent pas accepter cela. Ils sont contre lui. Au verset 13, « Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré secrètement, parce qu'il y avait foule dans ce lieu-là. Il n'était pas approprié qu'il soit acclamé par la foule, ainsi il s'est retiré secrètement. Il est parti. » Et après cela, verset 14, Jésus le trouva dans le temple, où il l'a pris, saisi dans le temple. Il savait toujours où il était, il ne l'a pas cherché d'une certaine manière, mais il l'a rencontré, il l'a saisi, rencontré dans le temple. Qu'est-ce que cet homme fait dans le temple? Plus tard, Christ s'adresse à lui d'une certaine manière, et ceci nous montre qu'il était un rebelle contre Dieu, qu'il n'avait pas de cœur pour Dieu. Il était un pécheur dans tous les sens du terme. Oh, je peux penser qu'il était reconnaissant d'être guéri. Maintenant, il est dans le temple. Ce n'est pas son endroit habituel. Mais Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Regarde ton corps, regarde-toi toi-même et réfléchis à ce qui s'est passé. Tu as été transformé. Réfléchis à ce qu'il y avait auparavant, comment tu as été guéri et réalise que c'est là un acte de Dieu. » Et Christ dit quelque chose d'extraordinaire. « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Si vous voulez rendre ces choses simples, vous pourrez dire « Oh, 38 ans auparavant, il a commis un grand péché et sa maladie était une condamnation. » Et cette maladie va revenir, et pire s'il pêche à nouveau. Mais ce n'est pas la bonne interprétation. Arrête de pécher, arrête cette vie de péché. Que la vie de péché cesse à présent. C'est là ce que Christ veut dire ici. C'est un autre commandement qui vient avec autorité. Voici, dans ta vie spirituelle, sois un enfant de Dieu. Et il y a la puissance dans ces paroles, ce n'est pas simplement une exhortation. Mais soyez guéris, soyez sauvés, soyez transformés, ne péchez plus. C'est là ce qui se passe pour nous également quand nous sommes sauvés. Quand nous venons à Christ, que nous nous repentons de notre péché, que nous croyons en lui, dans sa mort expiatoire, comme étant le seul chemin du salut, et nous recevons le salut librement, nous lui donnons notre vie. Il nous dit, d'une certaine manière, ne péchez plus. En d'autres termes, ne vivez pas pour le péché. Vivez pour la justice. Vivez pour Dieu, pour Christ. Et c'est un commandement qui vient avec autorité, qui nous transforme exactement comme cet homme. Quand il lui dit, lève-toi, emporte ton lit et marche. C'était un commandement d'autorité. Ne pêche plus. Cessez cette vie pour le monde, pour vous-même, pour le péché, et commencez aujourd'hui une vie nouvelle. Il met en nous la vie spirituelle, cette communion avec lui, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, non pas une maladie pire. Je pense qu'il parle ici de l'éternité. Parce que s'il n'y a pas de conversion, pas de transformation, alors cette chose pire, c'est d'être sous la condamnation de Dieu éternellement. Au verset 15, « Notre temps passe, cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. » À présent, au verset 16, « À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus. » Comment ? De quelle manière ? Le récit ne nous dit pas. Mais à partir de ce moment-là, il commence à le persécuter, il commence à poser des questions bizarres. Ils essayent de, s'ils le peuvent, d'empêcher son ministère et ils essayent de comploter pour le faire mourir en secret. Et la raison, c'est parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Il a remis en question toute leur théologie. Si un homme peut représenter Dieu, le Fils de Dieu, et œuvrer le jour du sabbat, alors ceci remet en question un point crucial, tout leur enseignement. Et il y a également une autre chose qui est décrite au verset 17, pour laquelle il s'oppose. Simplement ceci au verset 17, la grande révélation de Christ qui se révèle lui-même, sa déclaration de sa divinité. Ces versets sont tellement importants. Il y a bien des années, en tant que jeune croyant, j'avais cette idée que Christ n'a jamais été explicite en disant qu'il est le Fils de Dieu. Et je vais vous dire comment j'ai eu cette idée, ou pourquoi je pensais cela. C'est la manière par laquelle les chefs des Juifs, les scribes, les pharisiens, constamment essaye à la fin de la vie de Christ, avant sa trahison, avant la croix du calvaire, constamment ils essayent de l'amener à déclarer de manière explicite qu'il était le Fils de Dieu. Et ils ne voulaient pas déclarer ceci de manière explicite, pas vers la fin. Ils disaient, vous l'avez dit, vous avez dit, vous avez dit ces choses, vous aime. Il affirmait ces choses, mais pas en termes clairs et évidents comme il le voulait. Parce que bien sûr, il voulait une phrase déclarée dans la présence d'une foule. Et il pouvait alors utiliser cette déclaration pour lui reprocher cela et le condamner. Mais à ce moment-là, il n'était pas explicite en cela. Ainsi, j'avais l'impression qu'il n'a jamais dit ceci d'une manière explicite. Et qu'il avait toujours cette tendance de parler de manière rhétorique par rapport au fait qu'il est le Fils de Dieu d'une manière oblique et pas d'une manière directe. Mais c'est une erreur que de penser ceci, d'en arriver à cette conclusion, parce que ici, au tout début, c'est si clair, si évident. C'est la première fois quand Christ est venu dans le temple, qu'il a purifié le temple, il a dit ceci à ce moment-là. Il a parlé de la maison de mon Père et il savait ce que cela voulait dire, qu'il est le Fils de Dieu. Et à présent, il le fait également d'une manière si claire, si évidente au verset 17. Il commence. C'est là la déclaration extraordinaire de Christ qui parle de sa divinité, de son ministère messianique, du fait qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. Je suis venu pour continuer l'œuvre de mon Père. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À quoi est-ce qu'il se réfère? Les miracles des prophètes dans l'Ancien Testament, il sera explicite alors qu'il continue à faire tous ces miracles, ces œuvres, ne viennent pas des prophètes, mais du Père. Et vous saurez que je suis le Fils de Dieu parce que je fais exactement les mêmes œuvres qui dans le passé ont été accomplies par les prophètes, par la puissance du Père. Je les fais, ces mêmes œuvres. Au verset 18, à cause de cela, les Juifs, les chefs des Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, une raison double à présent, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'était clair, et ils l'ont compris très clairement. Et Christ ajoute à ceci, verset 19, Jésus prenant la parole leur dit, « en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous déclare d'une manière solennelle, je vous le dis, et il utilise une illustration qu'il a utilisée plus tôt, c'est une illustration extraordinaire. Il leur parle comme s'ils étaient des enfants à la maternelle. Il aurait pu leur dire, « Je sais exactement ce que mon père pense. » Mais il l'illustre ceci comme s'il disait, « J'étais dans la maison de mon père, j'étais au ciel. » Je connais toutes les conversations du ciel. Je suis l'un des membres de la famille avec mon père. Je sais tout ce qui est décidé au ciel. Toutes les conversations, je les connais. Et parce que je connais tout ceci, je peux les répéter ici. Oh, c'est une manière douce de dire ceci, comme à des enfants. En vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père. Et il dit ceci dans ces termes si simples. Mon Père et moi, nous sommes un. C'est là ce qu'il veut dire, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père et le Fils, c'est la même personne. Ils font les mêmes choses, ils pensent les mêmes choses. Et le Saint-Esprit, ce que nos prédécesseurs appeler ce concert de la Trinité, cette harmonie, cette symphonie de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, ce grand mystère de la Trinité, exprimé dans des termes si simples ici. Ne savez-vous pas, leur dit Christ, dans toute l'éternité j'ai été un membre de la famille. Moi et mon Père, nous pensons, nous parlons et nous faisons les mêmes choses. Au verset 20, il continue, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Ce serait trop compliqué d'expliquer comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents dans une certaine manière et cependant entièrement pareils dans les choses essentielles et pensent de la même manière. Ainsi, c'est exprimé d'une manière simple, « Car le Père aime le Fils, il y a ce lien d'amour, il montre tout ce qu'il fait. » Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Il parle même de la résurrection des morts. Au verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts. » Quand est-ce que le Père a ressuscité les morts? Ceci doit être une référence aux prophètes de l'Ancien Testament, Élisée, Élie, qui ont ressuscité les morts. Comme le Père ressuscite les morts, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Et le Fils va ressusciter les morts également. Et ceci en amène à une nouvelle conclusion avant que je ne finisse. Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Et le raisonnement ici est celui-ci. Si une personne a la puissance divine de ressusciter les morts, il a le jugement divin. Le Père a donné clairement au Fils la puissance, l'autorité du jugement. Parce que ressusciter les morts, repousser leur mort, ceci est lié au jugement. Parce que seul le juge fait cela, seul le Père, qui est le juge de tous, peut ressusciter les morts. Si le Fils peut le faire également, alors il lui a été donné la puissance de juger. Ainsi, il parle de sa divinité et il les avertit qu'il est à présent le juge devant qui ils devront se tenir. Et je dois conclure avec ce verset merveilleux et nous allons revenir un peu dans notre prochaine étude au verset 24. Ce passage de miséricorde, en vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternel, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chers amis, Nous avons considéré quatre choses principales. Cette question extraordinaire, « Veux-tu être guéri ?» L'initiative divine dans le salut. Puis l'hostilité qui a commencé contre Christ. Et ensuite, la révélation de Christ en tant que Fils de Dieu. C'est un passage plein de richesses. Que Dieu le bénisse pour nos âmes.